chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Laurent Batoumona Kandikam, homme politique, député et homme d'affaires congolais, pour parler notamment de l'implication des femmes et des jeunes en politique. Un grand merci d'être avec nous.
Merci, c'est un privilège pour moi.
Alors, vous êtes président du mouvement de solidarité pour le changement en RDC et vous m'avez dit donc que vous avez au sein de ce mouvement, n'est-ce pas, une section femme, c'est ça?
Exactement. Nous avons une structure qui s'appelle Ligue nationale des femmes où pratiquement tous les problèmes concernant les partis, les doléances sont fédérées au niveau de ces comités-là pour chercher des solutions ou pour les orienter sur un intérêt quelconque. Donc c'est une ligue qui fonctionne très très bien et c'est très appréciable pour nous aujourd'hui.
Donc c'est pour attirer les femmes en fait en politique, c'est ça?
Non. Disons qu'au Congo, il y a, si vous regardez les statistiques, il y a 60% des femmes et 40% des hommes. Donc nous pensons que les femmes comme électeurs, c'est une bonne chose. Et les femmes comme, comment dirais-je, candidats aux compétitions politiques, c'est aussi une meilleure chose.
Est-ce que vous avez tendance à inciter, au sein de votre parti, est-ce que vous encouragez justement les femmes à se présenter, notamment à des postes quelconques en politique?
D'abord, je voudrais vous donner ma propre expérience.
Oui.
Dans les compétitions électorales, imaginez que vous avez fixé une heure pour une réunion quelconque et vous êtes en retard, soit à cause des embouteillages, soit à cause des imprévus. Mais quand vous arrivez, les hommes pratiquement sont partis, mais les femmes sont là.
Ah.
Elles veulent attendre, elles veulent entendre le message de leur leader que nous sommes. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours privilégié que les femmes aujourd'hui jouent un rôle important dans la politique. Et pourquoi pas les encourager.
Plus sérieuse alors, c'est ça?
Oui, plus sérieuse et attentive pour chercher des solutions. Et d'ailleurs, je voudrais seulement vous informer si vous ne le savez pas. Depuis que notre pays a connu des problèmes de pillage en 90 et en 93, ce sont les femmes qui sont devenues des grandes entrepreneurs pour pouvoir prendre en charge des dépenses de la famille. C'est elles qui nourrissent pratiquement les maris dans certaines situations et c'est elles qui s'occupent du bénévolat des enfants, de la scolarité. Donc aujourd'hui, au Congo, la femme joue un rôle très important dans la conduite du ménage.
C'est dans la presse.
Essor des mariages par enlèvement au Kyrgyzstan. Selon l'ONU, plus de 12 000 femmes et filles sont kidnappées par an au Kyrgyzstan, souvent avec la complicité de leurs proches visant les marier de force. Cette coutume, entre guillemets, n'est-ce pas connue sous le nom d'Allah Katchou, littéralement prend et court, est également pratiquée dans d'autres pays d'Asie centrale et dans le Caucase, rapporte l'AFP. Afin d'attirer l'attention sur ces enlèvements, la journaliste Gulzhan Tourdou Bayeva et quatre autres victimes, victime elle-même, ont accepté que leurs histoires deviennent un dessin animé. Nargiza, l'un des personnages, raconte comment la tante de la jeune femme a aidé à préparer son kidnapping. Un autre personnage, Begaïm, permet à une autre victime de raconter son viol par l'homme qu'elle est censée épouser. Et Gulzhan est la seule des cinq femmes à avoir accepté de révéler son identité. La jeune Kirghize a reçu d'ailleurs des mails d'insultes et des menaces. La plupart de ces messages de haine ont été rédigés par des hommes. Monsieur Batoumona, j'aimerais bien voir votre réaction sur ce type de pratique.
Bien, je venais noter qu'il y a une pratique qui s'exerce au niveau de ces pays-là. Mais d'abord au niveau du Congo, la tradition voulait qu'une dame que tu vas épouser soit choisie par les parents durant une certaine époque. Mais depuis lors, tout a changé. Aujourd'hui, la volonté des deux personnes qui vont constituer le couple soit prise en compte. Mais il y a des fois où le mariage est imposé d'office par les parents. Mais souvent, qui, à la longue...
Là, c'est un peu brutal quand même. On enlève littéralement la jeune fille ou la jeune femme, dans le cas que je vous ai cité.
Disons, là nous condamnons cet aspect de situation. Et nous pensons qu'au Congo, cette pratique a pratiquement disparu il y a de cela une dizaine d'années, depuis que le gouvernement de l'époque avait prôné la promotion de la femme, la parité de la femme, et voilà, ces pratiques ont disparu. Mais plutôt par rapport au viol, en tant que député, il y a des lois qui ont été votées pour pouvoir protéger les jeunes filles ou la femme qui a été violée, ça entraîne directement à l'emprisonnement. Depuis plus de 5 à 10 ans de prison. Mais il y a aussi une nouvelle pratique qui est née. Aujourd'hui, les viols constituent un fonds de commerce. Un fonds de commerce où une dame peut se présenter devant la police en disant qu'elle a été menacée ou elle a été l'objet de viols pour pouvoir entraîner un ce qui est un arrangement à l'amiable qui va porter des ressources au niveau de la famille soi-disant victime. Et nous pensons que cette pratique doit être condamnée dans notre pays parce que souvent la police participe à cette collaboration-là pour tirer de l'argent.
On doit effectivement avoir... On sait qu'il y a un certain pourcentage de faux témoignages effectivement qui existe, hein, mais qui est relativement minime par rapport aux réelles violences faites aux femmes. Monsieur Batoumona, dans votre parti, si j'ai bien compris, cette section, c'est une section réservée seulement aux femmes ou ce sont des femmes qui sont là pour inviter les femmes à venir dans le parti? Autrement dit, est-ce qu'il y a une section séparée femmes et hommes, un mouvement de femmes?
Disons, pour nous, dans mon parti, les mouvements des solidarités pour les changements, et nous avons deux structures qui constituent les piliers de notre parti. Nous avons le comité, d'une manière générale, qui constitue le gouvernement du parti. Et nous avons la Ligue nationale des femmes, qui pratiquement tous les comités constituent des femmes, et la Ligue nationale des jeunes, qui est gérée aussi par la jeunesse. Donc ces deux piliers-là constituent aujourd'hui l'ossature qui permet à ce que nous pouvons aller aux compétitions électorales. Et nous pensons que les femmes, étant donné qu'elles sont nombreuses, elles jouent un rôle important dans notre société actuellement en tant que politique. Et nous les encourageons. Nous les encourageons à pouvoir faire de la politique.
C'est pas facile à trouver des femmes qui veulent faire de la politique?
Évidemment, il y a une barrière qui existe par rapport à ça. D'abord, la barrière dans les couples. Il faudra que les maris acceptent que sa femme puisse faire la politique.
Même puisse un petit peu la soutenir.
Oui, parce que non seulement la soutenir, la politique, comment dirais-je, il faut disposer d'un maximum de temps. Vous avez des réunions qui vont au-delà de 20 heures, de la soirée. Donc il faut que les maris puissent accepter que sa femme puisse aller dans de telles réunions.
Accepter et puis aussi la soutenir, notamment dans les tâches familiales, si elle doit s'absenter, notamment le soir.
Effectivement. Oui. C'est ça où se trouvent les gros problèmes à l'heure actuelle où les femmes, pour qu'ils puissent faire la politique, ils ont la barrière par rapport au couple. Et nous pensons que nous sommes en train de les inciter à pouvoir faire la politique.
Parole de femme.
Dans le cadre du forum AGOA qui s'est tenu en août en 2007 au Togo, notre correspondante Kay Lawson a tendu son micro à plusieurs businesswomen, dont notamment Essou Desam Amaoutale, directrice de l'Ambana Collection qui produit des éponges végétales Loufa. Elle explique ici ses difficultés à exporter sur le marché américain.
Nos difficultés sont multiples, mais l'essentiel, c'est surtout la quantité, parce que c'est des grandes quantités qui sont demandées. Et d'autant plus que nous utilisons un produit que nous cultivons nous-mêmes, mais sur de petites surfaces. Nous n'arrivons pas à satisfaire aux quotas exigés par les clients. Ils demandent par exemple 10 000 pièces par mois. Vous imaginez, par mois, nous pouvons faire juste 5 000 pièces. Difficilement, 5 000 pièces.
C'était Esso Desam Amaout Allé, qui est directrice de l'Ambana Collection, dans un reportage de Kay Lawson que vous pouvez retrouver sur voaafrique.com. Monsieur Batoumouna, on revient sur notre sujet. Vous avez parlé des certains obstacles. Le premier obstacle, dites-vous, pour que les femmes puissent s'engager en politique, finalement, c'est l'époux, c'est le mari qui ne va pas forcément accepter de la laisser faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'obstacle ?
Comme type d'obstacle, il y a d'abord, sa propre prise en charge. Vous savez, chez nous, faire la politique, il faut disposer des ressources financières importantes. Parce que l'État ne vous appuie pas. Vous devez, vous prendre en charge par rapport à toutes les activités politiques que vous tentez d'organiser. L'allocation des salles des réunions, par exemple, ça a un coût. Les rafraîchissements qu'il faut offrir...
Vous voulez dire que les membres doivent vraiment tous participer financièrement, effectivement, à tout...
Obligatoirement, mais la culture de la cotisation n'est pas encore ancrée dans les mœurs de la société congolaise.
C'est vrai que plus de femmes, ça fait même plus de cotisations, finalement.
Ouais. Si, plus de femmes, plus de cotisations. Effectivement, les femmes cotisent, parce que dans leur bout des pannes, il ne manque jamais rien. Ils ont toujours un peu d'argent, plus que les hommes. Et je crois que les femmes... En tant que membre du parti, elle contribue d'une manière substantielle aux activités politiques du parti. Mais pour qu'elle se fasse candidat, elle a besoin des ressources. Et ces ressources doivent provenir essentiellement de sa propre famille, d'une part. Et le parti peut apporter soit 15-20% de son budget. Mais ce qui est consistant pour qu'il pour qu'il puisse tenir le temps. Entre le début de la campagne et les élections. Donc c'est un temps monstrueux pour elle, parce qu'elle doit tout abandonner et s'appliquer à la politique. À ce moment-là, les ménages en pâtissent. Donc voilà l'autre obstacle qui existe en cette matière, où la femme, de temps en temps, se sent pratiquement affaiblie pour s'engager dans un combat politique.
Très bien.
Des jeunesses pouvaient.
On va parler de la jeunesse un petit peu. Zoumana Wonogo, notre correspondant Burkina Faso, a tendu son micro à la jeunesse de son pays pour savoir ce qu'ils attendent des gouvernants. Je vous propose d'écouter ces jeunes dans son reportage.
Les jeunes constituent la frange la plus importante de la population burkinabé. Cependant, cette jeunesse assure ne pas sentir les gouvernants. Chérif Dagano, étudiant en droit, explique.
On veut sentir en fait nos dirigeants. Depuis l'ex-régime jusqu'à maintenant, vraiment, il n'y a pas vraiment de... On sent rien en fait. On ne sent pas de mouvement. On ne sent pas que ça bouge. Au niveau de création d'emplois, innovation et tout ça, c'est RAS qu'on nous le dit.
RAS, où rien à signaler chez les jeunes, ne veut point dire tout va bien. Bien au contraire. Bonkungu. Il relate ici les conditions difficiles.
Moi, j'ai des papiers d'entreprise, mais je n'ai pas un fonds de déroulement, je n'ai pas de soutien, rien. Je me demande comment faire. Moi, je pense qu'en ce moment, ceux qui n'ont rien, ils seront toujours rien. Bon, moi, je pense que la jeunesse burkinabé, l'État a dû nous oublier. Les jeunes ont des idées et qu'on n'a pas de soutien.
Si chez les jeunes hommes, c'est assez difficile, cela l'est encore plus chez les jeunes femmes. Suivons Marianne Compaoré.
Pour nous les femmes, c'est difficile parce que le patron te propose des propositions indécentes. Certains sont obligés de céder parce qu'elles sont en manque de moyens. C'est difficile pour nous et de fois aussi, on est obligé de s'humilier pour survenir aux besoins. Pour le boulot là, c'est dur à trouver parce que tu peux finir tes études et chercher pendant 3 ans, 4 ans comme ça, chercher du travail et puis tu ne trouves pas. Tu es obligé de vendre des petits trucs pour pouvoir survenir à tes besoins.
Alfred Sawadogo, initiateur du MROD, mouvement de réflexion sur les opportunités de développement, voit comme solution l'implication des jeunes dans les sphères de décision.
Combien de ministres burkinabés ont moins de 35 ans? Combien de députés, de DG ou de directeurs de service ont moins de 35 ans? Dans un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans, il est nécessaire, il est logique que les jeunes soient de plus en plus représentés dans les sphères de décision et de gouvernance.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et c'est la jeunesse ouverte.
Laurent Batoumona, la jeunesse du Congo, vous voulez nous en parler ? Elle est impliquée, qu'est-ce qu'elle attend la jeunesse ?
Je crois que la situation qui se vit ailleurs qu'au Congo est pratiquement la même. Nous disons que la jeunesse est pratiquement abandonnée. La jeunesse ne reçoit pas une meilleure scolarisation à l'heure actuelle. Parce que si vous regardez un licencié aujourd'hui, diplômé, quand il vous écrit, il rédige une lettre, mais c'est pratiquement, c'est comme si il était au niveau de la cinquième ou de la sixième année primaire. Donc nous disons que chez nous, des efforts doivent d'abord être consentis énormément pour que la jeunesse congolaise puisse rentrer sur les seuils de l'acceptabilité qu'il existe partout ailleurs. Mais il est vrai que l'embauche est aussi difficile parce que le pays est pratiquement en arrêt politiquement, parce que la politique, comment dirais-je, gère tout le reste, que ce soit les sociales, que ce soit la sécurité, que ce soit l'alimentation.
Tout est au point mort.
Tout est au point mort au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous avons des efforts énormes à faire pour relancer cette jeunesse. Parce que d'abord, il n'y a pas de nouveaux investissements. Qui dit investissement, il y a des nouvelles, des embauches qui vont se créer, qui ne participent pas. La jeunesse aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu des sociétés de télécommunications. Aujourd'hui, ce sont des petits vendeurs des unités de téléphone. Ce sont aujourd'hui...
La débrouille.
C'est la débrouille, c'est eux qui s'occupent pratiquement des échanges de la monnaie entre les dollars et les francs congolais.
Donc il y a de l'initiative. Hein.
C'est cette situation d'informel qui permet à cette jeunesse de survivre. Sans cela, ils sont rejetés d'abord en famille parce que quelqu'un qui a fini des études, il a fait consommer des ressources financières au niveau de la famille et se retrouve sans emploi. Donc en fait, il est rejeté. Alors là, il cherche un petit capital, ne fût-ce que des 100 dollars pour démarrer cette activité de vente des unités de téléphone. Des 100 dollars pour pouvoir engager à ce qu'il puisse faire l'échange de la monnaie. Donc voilà là où se trouve la jeunesse aujourd'hui. Mais aussi, il y a la jeunesse qui se bat dans les sports. Et là, c'est encourageant parce que c'est l'unique activité qui reste pour la jeunesse de pouvoir prétendre un jour gagner la vie à travers les sports.
On va continuer justement sur cette lignée de parler de la jeunesse.
Entre parenthèses.
Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntab, s'est penché, lui, sur les opportunités offertes aux jeunes dans son pays, le Cameroun, où fleurissent les start-up, hein, ces petites entreprises innovantes à croissance rapide.
Bonjour madame, je suis Aline de la Startup Academy et je vous appelle concernant l'atelier pratique.
Des coups de fil de ce genre, les standardistes de la Startup Academy en passent par centaines chaque jour. Objectif, intéresser les jeunes Camerounais à innover dans la création des emplois et des richesses dans des secteurs jusqu'ici non explorés. Pour ce faire, ces jeunes sont conviés à assister aux conférences de leadership. Depuis 2016, l'idée marche, selon le président de la Startup Academy branche de Yaoundé, Dr Claudel Noumbessier.
Une startup, c'est une structure qui ne nécessite pas beaucoup de moyens pour pouvoir être démarrée. C'est plus ce genre de structure-là qui fonctionnerait mieux avec les jeunes. Donc ici à la Startup Academy, on forme les jeunes à pouvoir créer des start-up qui deviendront plus tard des grandes entreprises qui vont contribuer au développement économique. Nous avons contribué à la création et à la mise sur pied de 93 structures au Cameroun qui emploient à ce jour 101 personnes en emploi direct et 702 en emploi indirect dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans l'agro-industrie, que ce soit dans les technologies.
Quelques fleurons émergent déjà. Karine Claire Andela dirige une start-up qui met en vitrine les talents de la transformation des produits locaux.
Nous avons un jeune qui fait un savon à base de cacao, ça marche très bien. On a un autre jeune qui est plutôt dans la ville de Bafoussam, il le transforme aussi en savon, des huiles anti-cassant pour les cheveux. Nous avons des jeunes à Fumbo, ils vous transforment tout ce qui est objet plastique en pavé. Nous avons des jeunes à Douala qui vous transforment des épices.
L'agroalimentaire est l'un des secteurs où les jeunes Camerounais ont créé le plus de start-up porteuse, à l'instar de Kenza Market. Sa promotrice a passé 15 ans en Allemagne. Elle fait aujourd'hui le bonheur des femmes qui veulent cuisiner vite.
On pré-cuit des viandes, on sèche des légumes, on rentre par exemple l'arachide en pâte pour faire la sauce d'arachide. Nous séchons tous nos condiments, les légumes et épices dans les déshydrateurs qui enlèvent de l'eau dans les nutriments. Nous écoulons en ligne et nous sommes aussi à Douala et nous faisons la livraison dans tout le Cameroun et bientôt en Occident.
Voilà, c'était un reportage d'Emmanuel Juntap au Cameroun pour VO Afrique. Laurent Batoumona, vous avez entendu dans ce reportage, hein, il y a un jeune homme qui dit pas beaucoup de moyens pour démarrer la start-up. C'est vrai ça, il faut quand même une petite base. Non, vous en parliez d'ailleurs auparavant, il faut quand même un petit peu d'argent pour démarrer.
Exactement. Ouais.
Minimum... Et puis 100 dollars, ça peut être beaucoup d'argent pour...
Non, un minimum de capital est souvent nécessaire. Mais j'encourage ou je félicite la femme congolaise, la jeune femme congolaise. Vous savez que dans la diaspora, il y a des femmes qui ont ouvert des boutiques, des magasins ici aux États-Unis, en Europe. Mais les fournisseurs, c'est qui ? C'est la jeune femme congolaise. Elle va commencer son espace agricole pour cultiver les légumes, les broyer, les conditionner et finalement les faire transférer en Europe ou aux États-Unis. Et même les poissons séchés, même... une panoplie de la nourriture que nous proposons, qui est ces fournisseurs venant du Congo à travers leur marchandise qui renvoie vers l'Europe. Et d'ailleurs, je vais vous citer un exemple assez remarquable. Hier, une femme qui vit en Amérique m'a contacté parce que j'ai fait les travaux, j'ai fait l'agriculture, j'ai une grande ferme agricole. Et elle m'a proposé si je peux arriver à lui ravitailler en poisson séché, que je me retire dans un conteneur frigorifique pour lui renvoyer ici aux États-Unis.
Et vous allez le faire ?
Et pourquoi pas les légumes ? J'ai dit que c'est une nouvelle initiative. Je dois d'abord rentrer au pays, analyser tous les paramètres pour voir si c'est faisable ou pas. Parce que d'abord, il semble que c'est à Baltimore que les bateaux doivent être affrétés pour arriver à Matadi. Donc ce sont des opérations... qui peut prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas se lancer directement à ce genre de business, mais il faut d'abord analyser tous les paramètres qui permettront que la femme qui veut bâtir une affaire ici en Amérique soit satisfaite.
Mais ça fait partie justement des études de marché dans le budget initial pour vraiment créer une entreprise. Déjà, rien que faire une étude de marché, des recherches, ça coûte de l'argent, ça, tout ça.
Ça coûte de l'argent. Ouais. Mais le malheur en est que dans nos pays, nous avons des structures de microfinance. Mais souvent, qui sont en train de pomper en termes de frais bancaires les petits capitales de toutes ces femmes. Parce qu'ils vont hypothéquer leurs biens immobiliers. Et une année après, elles se sentent incapables de rembourser. Donc là, c'est le gouvernement qui doit jeter un regard assez approfondi pour essayer de niveler ce genre de situation. La femme entrepreneur congolaise, elle a déjà tout, mais elle est bloquée par rapport au financement. Où est-ce qu'elle va-t-elle trouver le financement pour pouvoir démarrer son affaire?
Un grand merci, Laurent Batoumona Kandikam, pour avoir participé dans Le Monde au Féminin. À très bientôt, au revoir.
Merci, madame, c'est moi qui vous remercie pour ce privilège.
Arrête.